Bonsoir, bienvenue dans cette édition des Tribunes de la Presse qui vous propose deux thèmes à savoir. 475 députés sont déjà connus sur les 500 qui doivent composer l'Assemblée nationale. La CENI a publié les derniers résultats provisoires ce jeudi. Au vu de ceci, le camp présidentiel obtient plus de 250 sièges et l'opposition environ 120 sièges. Actualité économique en République démocratique du Congo, le gouvernement maintient la taxe sur la valeur ajoutée TVA en sigle, en dépit de la recommandation de la Fédération des entreprises du Congo qui souhaite le report de cette taxe à cause de la mauvaise application. Pour un confrère journaliste qui participe à ce débat, il s'agit de Bélard Mbouy. Il est directeur général du journal La Renaissance de la Nation. C'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Bélard Mbouy.
Bonsoir Guy.
Harold Bellarmin Badibanga, il est journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTG en sigle, qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Harold Bellarmin Badibanga.
Bonsoir confrère.
Et Mathieu Poukoudi, il est éditeur du journal L'Embouchure, c'est un hebdomadaire qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Bonsoir Mathieu Poukoudi.
Oui, bonsoir confrère.
Élection législative, 475 députés déjà connus. Actualité économique, le gouvernement rejette la recommandation de la FEC au sujet de la TVA. Écoutons cette revue de presse pour savoir comment la presse a analysé ces différents thèmes. C'est une revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Législative 2011, la CENI affiche les derniers résultats, titre « La prospérité ». Un atterrissage forcé note le confrère, d'autant plus qu'il aura laissé pas mal de dégâts tout au long du parcours, les résultats publiés ayant fâché chaque jour l'atmosphère politique. L'Avenir estime que cette publication des résultats concerne les élus de Popokabaka au Bandundu, de Rutshuru au Nord Kivu, de Mbujimayi au Kasai Oriental, de Kongolo au Katanga, de Lukunga, Moamba et Changu à Kinshasa. Le potentiel, lui, voit après les législatives 2011 un nouveau paysage politique qui se dessine avec comme socle le PPRD, le MSR et le PALO. Ce journal qui s'intéresse aussi aux contentieux électoraux fait remarquer que les recours ont commencé à tomber à la Cour suprême de justice. Le contraire aurait surpris, commente le journal, dans la mesure où les contestations n'ont pas attendu toute la proclamation des résultats des législatives. Et, à l'allure où vont les choses, note le confrère, la Cour suprême de justice risque d'être débordée. Pour ces contestations, Forum des As pense que la Cour suprême de justice aura du pain sur la planche. Avec cette publication des résultats des législatives, l'observateur voit déjà la formation imminente du futur gouvernement. Le quotidien qui pense que cette question qui ne peut être qu'une question de quelques semaines devrait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Selon le confrère, l'attribution des ministères par le formateur doit reposer sur le mérite, la compétence, l'expérience de la personne, quelle que soit sa couleur politique. Terminons cette revue de presse avec le potentiel qui revient sur un autre sujet ayant fait la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée. Le journal rapporte que la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, a demandé le jeudi 26 janvier dernier le report en 2013 de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA qui suscite encore des préoccupations mettant à mal son application dans le contexte socio-économique et financier du moment. Selon le potentiel, le patronat congolais a justifié sa demande par le souci de sauvegarder les intérêts de ses membres et de la nation sans pour autant perturber la bonne marche de l'économie nationale.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire, Bélard Mbouy, vous êtes directeur général du journal La Renaissance de la Nation, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi cet échange des tirs hier matin à Goma entre les éléments de la police militaire et la garde privée du député national Dieudonné Bakungu, qui est candidat UNC aux législatives de 2011 à Masisi. Bilan, au moins 4 morts et plusieurs blessés dans les deux camps, et ces affrontements ont abouti à l'arrestation du député Dieudonné Bakungu.
Exactement. Vous savez, le kivu, ce sont des cendres fumantes. Il faut savoir que le feu couve encore sous la cendre, comme on dit, et que le meilleur moyen de le conduire cette région à la paix n'est pas de souffler sur les braises. Bakungu Mitondeke est issu d'une ethnie, les Bahunde, d'un territoire, Masisi. Quand on sait que ce territoire a été l'épicentre des affrontements et des problèmes ethniques qui ont conduit à la première guerre de 1996, dont la deuxième n'a été que la suite logique du reste, il faut quand même faire preuve d'une extrême prudence à la gestion des problèmes qui se posent de ce côté-là. Je ne pense pas que qu'on puisse arrêter un leader d'une communauté qui s'est senti lésé dans ce qui avait comme résultat provisoire, qui ont été finalement annulés, soit le meilleur moyen de contribuer à faire la paix dans cette province. Je ne pense pas.
Merci Harold Bellarmin Badibanga. Vous êtes journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA en sigle. L'autre actualité, c'est le gouvernement provincial du Kasaï Oriental qui s'est dit très inquiet des actes de violence enregistrés ces derniers temps dans la ville de Mbuji. Acte que le gouverneur Ngoy Kassandji attribue aux sympathisants de l'UDPS et allégation que rejette la Ligue des jeunes de ses partis.
Ce jeu de ping-pong, en fait, ne date pas d'hier ou d'aujourd'hui. C'est un jeu de ping-pong, estimés confrères, auquel nous avons toujours assisté. Ce qu'il faut déplorer dans tout ça, c'est que c'est l'ordre public qui en sort toujours perturbé. Ce sont des vies humaines qui en ressortent toujours mal payées. Et je crois savoir que la période post-électorale, plus précisément en Mbuji-Mayi et au Kasaï Oriental, qui se trouve être le fief naturel de l'UDPS. Cette période de post-électorale, disais-je, n'est pas du tout aisée. Au moment où le leader de l'UDPS lui-même, ici à Kinshasa, a rejeté in globo les résultats provisoires donnés par la CENI, s'autoproclamant lui-même président de la République, cela ne pouvait qu'avoir un effet domino par rapport à tous les militants de l'UDPS à Mbuji-Mayi qui se comptent par des milliers. Et face à cette situation, le gouvernement provincial du Kasaï Oriental, piloté par Alphonse Ngoy Kassandji, a normalement, au regard des pouvoirs régaliens reconnus à toute une institution gouvernementale, de protéger les personnes et leurs biens. Donc, ces heurts qui ont eu lieu entre les forces de l'ordre et les militants de l'UDPS, moi, ils ne m'ont pas étonné. Mais ce que je déplore, c'est que cette recrudescence des violences n'est pas de nature à garantir la paix et la sécurité des uns et des autres. Et la meilleure façon de faire, c'est que de part et d'autre, que l'on mette de l'eau dans le vin. Si les militants de l'UDPS ne peuvent pas un peu obtempéré, mais même la répression des manifestations doit être faite dans un climat vraiment humain.
Merci Mathieu Pokoudi. Vous êtes éditeur du journal Embouchure, c'est un hebdomadaire qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Quelle est l'information qui domine à Matadi aujourd'hui?
Oui, l'information qui domine la province du Bas-Congo, c'est notamment la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales par la CENI, et que dans la province, l'attention de la population est focalisée sur la prochaine convocation de la plénière de l'Assemblée nationale par l'administration parlementaire. Donc, comme vous le savez, les élections se sont bien déroulées chez nous dans la province. Il n'y a pas eu de contestation comme dans d'autres provinces. Il n'y a pas eu d'actes de violence. Donc, en fait, nous sommes calmes et nous attendons la mise en place de la nouvelle chambre basse qui sera d'ici là mise en place.
Merci. Notre premier thème de ce soir, 475 députés sont déjà connus sur les 500 qui doivent composer l'Assemblée nationale. La CENI a publié les derniers résultats provisoires ce jeudi. Au vu de ceci, le camp présidentiel obtient plus de 250 sièges et l'opposition environ 120 sièges. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a rendu public les résultats provisoires des trois circonscriptions de Kinshasa, des Popokabaka au Bandundu, des Kongolo au Katanga, des Rutshuru au Nord Kivu, et Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental. Avec ces tableaux, hormis les cas litigieux qui sont déversés à la Cour suprême de justice, sur les 500 députés attendus à l'Assemblée nationale, au moins 475 élus sont enfin connus. Alors que l'opposition semble être en régression, la majorité actuelle a préservé sa suprématie à la Chambre basse du Parlement. Jacques-Yves Molima pour le reportage.
Cela va sans dire, au sein de la majorité actuelle, les figures de proue préservent leur suprématie. Le PPRD vient en tête avec 63 députés, le MSR est à la deuxième position avec 28 députés. S'il faut additionner les élus du PALU, ARC, COFEDEC, UNADEF, UNADEC et la CCU pour ne citer que ce parti, la majorité actuelle obtiendrait déjà 226 sièges, sans compter la sommation des partis de la majorité avec 1, 2, 3 ou 4 sièges. Cette majorité serait en plus confortée avec l'arrivée en poupe du PPPD, un parti né juste avant les élections et qui a obtenu 30 sièges. Tout compte fait, la majorité a déjà au moins 256 sièges. Quant à l'opposition, l'UDPS qui arrive en premier avec 41 députés ne pourrait, même avec la percée de l'UNC de Vital Kamerhe, 17 sièges, tenir tête à la majorité. Le MLC en nette régression n'a réuni que 22 sièges, contrairement à la législature de 2006. En faisant la sommation des autres partis de l'opposition, qui n'ont obtenu qu'entre 2 et 4 ou 5 sièges, l'opposition a du mal à dépasser la barre des 120 députés. Encore faudra-t-il que les uns et les autres restent constantes quant à leur idéologie politique.
Bélar Mbouyi, 475 députés déjà connus, votre analyse?
Eh bien, disons, il faut d'abord se poser la question sur la nature même des élections que nous avons eues à passer. Je crois que c'est la première chose qu'il faudrait faire. Sur les élections, vous avez entendu les réactions qui ont suivi immédiatement, venant du centre Carter, ainsi que du département d'État et de la ministre des Affaires étrangères des États-Unis en personne, Mme Hillary Clinton. Ils ont déclaré que ce sont des élections qui se sont faites dans un chaos organisationnel total et qu'il n'y a eu aucune transparence et que, en fin de compte, ces élections-là ne sont pas du tout crédibles. À partir du moment où nous sommes en face des élections qui ne sont pas jugées très crédibles, aussi bien par les observateurs intérieurs que les observateurs extérieurs, on peut se poser la question de savoir quel crédit nous pouvons y apporter. Bien, et il n'empêche que ces élections permettent quand même de se faire une certaine idée sur les forces en présence au pays. Nous avons ici les deux plus grands partis du pays, ça va de soi. Il y a le PPRD d'un côté, l'UDPS de l'autre. Le PPRD recule énormément, c'est la première leçon.
Comparativement à 2006.
Comparativement à 2006, malgré tous les moyens dont il a pu disposer, et les accès aux médias de façon presque monolithique.
Mais il maintient quand même sa position de première force à l'Assemblée nationale.
Oui, mais quitter première force politique. 111 à 73, sincèrement, c'est un recul très important. En fait, la plupart des partis ont reculé. Perd presque le tiers ou près de la moitié de ses élus. Le MLC culbute littéralement. Il perd les deux tiers de ses suffrages de 2006.
Et on peut expliquer cela par quoi?
Pareil. Bien, on peut expliquer cela par le fait que la population n'a pas très bien apprécié le comportement de ses élus, le rendement de ses élus. Encore faut-il que cette même population puisse faire preuve d'une grande capacité à mieux apprécier le travail de ses élus. Quand je vois certains députés qui ont été parfois particulièrement brillants, on ne les retrouve plus. Et il y a aussi un autre élément qu'il faut intégrer, c'est la présence de l'UDPS cette fois-ci, ainsi que de l'UNC de Vital Kamerhe, qui est tout nouveau sur ce terrain de confrontations électorales. Alors, il y a beaucoup d'élus qui l'avaient été dans les fiefs, dans les bastions de l'UDPS. L'UDPS ayant pris le départ elle-même, il va de soi que il devait y avoir des rééquilibrages. Je prends un exemple très simple. Dans le Kassai occidental, par exemple, le MLC avait fait un score très élevé en 2006. Ils étaient autour de 9 députés en 2006. Aujourd'hui, je crois qu'ils n'en ont aucun au Kassai occidental. Voyez-vous. Au Bas-Congo, le MLC avait été le premier parti en 2006. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Il n'a, je crois, qu'un seul député, c'est José Lungwana, je crois. Et l'UDP, c'est le premier parti au Bas-Congo également. Et je crois également que tous les députés qui sont élus sous la bannière UNC auraient dû certainement être au PPRD si jamais l'UNC n'avait pas été créé. Voyez-vous donc, il y a ces rééquilibrages-là qui sont en train de se refaire pour donner un nouveau paysage à la nation. Mais il faut aussi tenir compte de quelque chose. Il y a des partis qui se sont effondrés, comme le RCD de Rubero par exemple. Lui, il quitte de 15 députés à aucun, à zéro. Ça, c'est un effondrement total. Autant qu'il y a des jeunes partis qui font preuve de dynamisme qui a quand même étonné. C'est le cas de l'UCP qui vient de l'éclatement du RCD d'ailleurs, l'UCP de Serufouli. Il y a la CCI de Lambert Mende qui impressionne.
Il y a le PPPD.
Non, le PPPD, je n'en parlerai pas trop parce qu'en fait c'est la doublure du PPRD. On a juste pris des jeunes PPRD, des barons PPRD, avec autant de moyens que le PPRD, on les a largués sur le marché. Ils ne pouvaient qu'avoir ça.
Harold Bellarmé Badibanga, l'un des enjeux de ces élections, c'est la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Et à cet effet, les camps présidentiels a multiplié des petits partis politiques. On a évoqué le cas du PPPD, un parti qui est né à la veille des élections et qui s'amène avec 30 sièges. C'est quand même étonnant. Apparemment, cette stratégie du PPRD, en fait du camp présidentiel, c'est une stratégie qui s'avère aujourd'hui efficace.
Vous savez, dans la politique, tous les moyens sont bons, à condition qu'ils répondent à l'éthique et à la morale dans la politique pour arriver à une victoire ou bien à des résultats escomptés. Je n'ai vraiment pas de preuve que tous ces partis politiques nés à la veille des élections sont vraiment une émanation du PPRD ou bien ont été fomentés par le camp présidentiel. Mais je pense, au regard de la loi électorale au Congo et même au regard de la Constitution, que tout Congolais a la possibilité d'initier, de créer un parti politique, tout Congolais a la possibilité de se présenter aux élections. C'est dans ce jeu démocratique que je place la création de toute cette litanie de partis politiques. Maintenant, si réellement ces partis politiques ont été fomentés par la majorité, je le constate, étant donné qu'ils se déclarent déjà faire partie de la majorité qui est en train de se frayer le chemin au niveau de la chambre basse du Parlement. Mais au regard de tout ce qui est en train de se faire ou de tout ce qui s'est fait, je suis en droit au moins de constater que si beaucoup ne sont pas revenus à l'Assemblée nationale, le premier point qui me saute aux yeux, c'est la maturité politique des Congolais. La maturité politique du souverain primaire qui a compris qu'il y a beaucoup de personnes qui, élues en 2006 sur base de promesses fallacieuses, ils se sont même permis de promettre ciel et terre en s'attribuant même les prérogatives du gouvernement. Je construirai ceci, je construirai cela. Lorsqu'ils ont passé 5 ans à l'Assemblée nationale, le souverain primaire qui les avait envoyés ne s'est pas retrouvé ni dans la légifération ni dans le contrôle efficace du gouvernement et ces gens avaient malheureusement coupé le pont qui existait entre eux et la base. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont revenus maintenant, il n'est que normal que la population arrive à les sanctionner. Au-delà d'autres raisons très majeures que Bellard a évoquées ici, la création de l'UNC et même l'entrée sur scène de l'UDPS, il s'est aussi agi de cette léthargie constatée dans le chef des élus de 2006. Beaucoup, nous avons eu le temps à le dénoncer, ne passaient presque pas leur temps à légiférer au fait à l'Assemblée nationale. Beaucoup, on les voyait, c'est la coulée belle, alors que ils ont oublié que la population les regardait même par les journalistes interposés. On l'a vu, on l'a dit, la population s'est assumée. Aujourd'hui, c'est vrai que les alliances politiques se font et se défendent. Je ne doute pas de voir, par exemple, l'UNC de Caméré s'allier au PPRD pour constituer une majorité. Mais in fine, moi je me dis, toutes les alliances peuvent se faire pour qu'on arrive à la mise sur pied d'une majorité. Créer le gouvernement. Mais l'essentiel, à mon humble avis, c'est que tous ceux qui sont élus aujourd'hui comprennent qu'ils sont là parce qu'ils représentent la population et lorsqu'ils se mettront à travailler, que les besoins majeurs, les soucis majeurs de la population soient pris en compte. Sinon, en 2016, la foudre de la population va encore tomber comme elle est tombée sur ceux qui ont fait la villégiature dans le mandat de 2006 à 2011.
Donc vous confirmez l'opinion selon laquelle le vote était un vote sanction.
Un vote sanction sans merci et la rigueur de la population continue et continuera.
Mathieu Mpokoudi, vous êtes Amata du Bas-Congo. Connaissez-vous les parlementaires de la législature passée et qui ont été réélus à Matadi?
Merci de la question. Je dirais que parmi les députés de la législature qui touche à sa fin aujourd'hui, nous avons l'honorable Poula qui a été réélu. En dehors de l'honorable Poula, pratiquement ceux qui viennent aujourd'hui, ce sont des hommes non-rouges, donc de nouveau venus sur la scène politique provinciale, et cela grâce notamment à la présence de l'UDPS comme parti pilote au sein de l'opposition politique dans notre pays.
Bélard Mbouyi, vous avez évoqué le fait que les petits partis qui sont créés à la veille des élections, le fait qu'ils ont obtenu beaucoup de sièges, cela serait dû au fait qu'ils ont beaucoup d'argent et que les gens qui composent ces partis, c'est des gens qui étaient connus. Vous pensez qu'on peut attribuer la victoire de ces partis à ces seuls faits-là? Est-ce que c'est la seule explication?
Non. J'aimerais dire deux choses. La première, c'est lorsqu'on parle de vote sanction, que la population est suffisamment mature pour sanctionner. Moi, j'estime que la population n'est pas encore suffisamment mature. Parce que si nous regardons la majorité en place en 2006, est la même qui est reconduite à l'issue de ces élections. Alors, vous déshabillez...
Mais ce ne sont pas les mêmes individus.
Mais vous n'avez rien changé. Ce n'est pas le député en soi qui fait la politique de la nation. Le député fait une majorité. Et la majorité conduit le pays en fonction du gouvernement qu'elle sort. Or, hier, 2006, comme 2011, c'est la même majorité à laquelle on a confié les rênes du pays. Donc, on n'a rien sanctionné. C'est pas, le député ne fonctionne pas en intuit ou personnel. Ce n'est pas en soi l'individualité d'un député qui compte. Lorsqu'on sanctionne, je te dis un exemple, on veut sanctionner le PPRD, on ne vote pas pour le MSR. C'est la même chose. Lorsqu'on veut sanctionner le PPRD, on ne laisse pas le député du PPRD de la même liste pour voter l'autre député de la même liste encore. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez sanctionner l'UDPS, vous ne votez pas pour le 7. Comprenez-vous? C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, mais cela étant, sur le plan du fond du problème en réalité, tous les petits partis qu'il y a eu dans la mouvance présidentielle, c'est un problème de fond que le président de la République a posé en 2010, à partir du mois d'août, à l'issue d'une réunion à sa ferme privée de Kingakati. Il a raisonné avec les cadres de la MP pour voir s'il n'y avait pas lieu de pouvoir revoir le système électoral afin d'éviter cet émiettement de l'Assemblée nationale en autant de partis. C'est ça l'idée que le président de la République avait lancée.
Mais une proposition qui n'a pas été prise en compte par le Parlement.
C'était une idée totalement noble. Elle a été portée par Lutundula Pala. Donc il fallait voir, est-ce qu'il fallait-il toujours appliquer la proportionnelle intégrale comme telle, à plus fort reste, ou fallait-il instaurer un seuil de représentativité, ou fallait-il passer au système majoritaire carrément, etc. etc. Eh bien, et l'opposition et les députés de la majorité eux-mêmes ont rejeté ça. Le président a dit, ah bon? Moi, je voulais que les gens puissent se souder, constituer de plus grands ensembles. Vous ne m'avez pas entendu. Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, il a créé des partis à n'en plus finir. Allons-y. Et ça lui a porté chance. Moi, je trouve que le président de la République, si vraiment c'est lui qui a institué ça, eh bien, il a bien joué. Mais je n'en doute pas le moins du monde. Parce que quand je regarde Mme Tshialamwana, par exemple, qui est jusqu'à aujourd'hui présidente en fonction de la Ligue des femmes du PPRD, qui était candidate à Kananga du parti RRC. Quand je regarde M. Claude Machala, qui est président du PPRD Founa, qui était candidat à Kinshasa au parti PCD. Quand vous regardez les gens qui ont des fonctions, je n'ai pas en citer toute une litanie, chez Okitundu et consorts, et qui sont candidats sur des listes d'autres partis. Mais je vous dis que je ne condamne pas ça. C'est à la population de réfléchir avant de mettre un vote. Ou vous aimez le président de la République, ce qui est votre droit, vous votez soit le PPRD, soit tous ceux qui sont du bord PPRD. Soit vous n'êtes pas d'accord avec le président de la République, vous estimez que c'est ce que vous voulez. Vous votez soit l'UDPS, soit les partis qui sont proches de l'UDPS. Et pour Kamer, ainsi de suite. Voilà comment ça fonctionne. Si la population n'est pas encore arrivée à comprendre ça, c'est qu'elle n'est pas encore mature du tout.
Harold Bellarmé Badibanga, un autre enjeu majeur, c'est la reconnaissance des résultats de ces élections et l'acceptation de participer aux travaux au sein de l'Assemblée nationale. Déjà, l'UDPS qui devient la première force politique de l'opposition semble ne pas être disposée à participer aux travaux au sein de l'Assemblée nationale.
Oui, que l'UDPS en tant que formation politique telle que je la connais, affiche telle attitude. Individuellement, ça ne m'étonne pas, connaissant le passé de cette formation politique dite fille aînée de l'opposition. Le boycott, oui, l'UDPS a toujours boycotté, ça ne m'étonnera pas qu'elle boycotte aussi les travaux de l'Assemblée nationale par rapport à ses députés élus. Mais ça devient en fait un enjeu très majeur, dans la mesure où Étienne Tshisekedi, le leader de l'UDPS, risque en lançant un mot d'ordre de ce boycott, se retrouvait lui-même devant un cul-de-sac, dans la mesure où cette politique de la chaise vide, qui n'a pas du tout payé à l'UDPS, au moins jusqu'à présent, ne sera peut-être pas acceptée par les députés élus de l'UDPS, qui, vous le savez, c'est un secret des polichinelles, ont fait ce qu'on appelle la traversée du désert à un certain moment, qui ils pensent que leur lutte politique pour le moment a payé. Et la population congolaise, de manière générale, a considéré que cette formation politique qui a lutté peut au moins défendre ses intérêts du
peuple. À votre avis, si l'UDPS arrive à mettre à exécution ces menaces, c'est-à-dire aucun député UDPS ne siège à l'Assemblée nationale, les scénarios possibles, c'est quoi?
Le scénario possible, c'est la légalité. Nous rentrons dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour que la chambre basse du Parlement siège en bonne et due forme, c'est-à-dire de manière régulière. Le quorum doit être atteint, c'est-à-dire 250 plus une personne. Est-ce que sur les 500 élus, moins les 41 de l'UDPS, est-ce que l'Assemblée nationale ne sera pas à même, du point de vue de la légalité, de siéger? Elle va siéger. Donc, sur le plan de droit et sur le plan de la faisabilité de toutes choses, je ne vois pas de panne, je ne vois pas de problème. Mais l'enjeu qui peut se poser, c'est un problème politique. Pour que les institutions fortes travaillent, il faut la présence aussi d'une opposition forte devant une majorité qui travaille, comme on le dit. L'opposition a tendance à être considérée comme les phares de cette majorité. Cette opposition sans l'UDPS et surtout au sein des institutions, je vois très mal comment elle pourra aider la majorité à relever la pente et à mieux travailler. Mais de toute façon, en tant que Congolais, si jamais l'UDPS arrive va me poser la question de savoir quelle attitude peut-elle prendre par rapport à ça. Mon conseil, c'est qu'elle doit participer à travailler pour le bien-être de la République au sein des institutions.
Merci Mathieu Mpokoudi. L'autre enjeu, c'est la formation du gouvernement. Cette panoplie des partis qui auront apporté des sièges au camp présidentiel ne pourrait pas devenir plus exigeant quant à leur participation au gouvernement. En fait, en d'autres termes, comment peut-on satisfaire tout le monde?
En révisant la Constitution par rapport au mode de scrutin à l'élection présidentielle, en instaurant le tour unique, on a pensé éviter à ce que les négociations, les alliances se font en amont. Si bien que la force d'un parti politique pourra être constatée par rapport au nombre de députés qu'il aura à sortir lors des élections législatives nationales. Ainsi en est-il aujourd'hui pour la constitution du gouvernement de la République. Moi, je crois que pour autant que les partis politiques comprendront le poids politique de chacun d'eux, ils ne seront pas beaucoup plus exigeants par rapport aux négociations en amont qui, hier, en 2006, préfiguraient déjà tel portefeuille reviendra à tel parti politique, tel portefeuille à tel autre parti politique. Voilà un peu pour dire qu'aujourd'hui, les partis politiques vont se retrouver au gouvernement par rapport à leur poids politique et ce n'est pas sur un même pied d'égalité qu'ils seront appréciés, quoi. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose, mais il appartient en fait aux partis politiques de pouvoir désigner des bons éléments pour que réellement le gouvernement ne soit pas celui de partage du gâteau, mais plutôt un gouvernement pour servir le peuple.
Bélard Mbouyi, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et si cette logique s'impose, faudrait-il concevoir un cadre juridique approprié à ces nouveaux contextes?
Non, un cadre juridique nouveau, non, nous devons appliquer la Constitution, mais il va de soi que nous sommes habitués à un pays...
Mais une Constitution où... qui ne prévoit pas un tel contexte, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale.
Mais bien sûr que si, la composition du gouvernement est laissée à la discrétion du président de la République, qui le forme avec son premier ministre en fonction de la composition majoritaire de l'Assemblée nationale. Et on n'a pas interdit au président de mettre tout le monde dans son gouvernement. Ce n'est pas du tout interdit. Mais il faut certainement que, si cela devait se faire, qu'il y ait un cadre de concertation d'abord avant toute chose. On fait l'Union nationale, pourquoi? Si on doit faire l'Union nationale, ce serait pour que certainement les forces qui sont aujourd'hui à l'opposition puissent apporter aussi leur touche en vue d'améliorer le fonctionnement de nos institutions. nation et la gestion même des ressources de la nation. Si c'est pour qu'ils viennent pour faire la même chose, un rassemblement pour continuer la même chose, là ça ne servirait absolument à rien. Il faudrait aussi également qu'on se mette ensemble pour voir comment organiser la suite de ce processus électoral. Il ne faudra pas qu'on aille au provincial de la même manière. Vous imaginez des provinces qui votent à Tshisekedi à près de 80%, qui vont avoir des députés provinciaux majoritairement MP, des gouverneurs MP. On va continuer avec ce qu'on a vécu avec les deux Kassai, Kinshasa et Bakongo, qui ont eu des gouverneurs minoritaires sociologiquement pendant 5 ans. Ça n'a rien apporté à leur famille politique, parce que dans ces provinces-là, le régime est resté considéré comme hostile par la majorité de la population. Donc ça ne mène absolument à rien.
Merci. Notre dernier thème de ce soir, actualité économique en République démocratique du Congo. Le gouvernement maintient la taxe sur la valeur ajoutée TVA en sigle, en dépit de la recommandation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, qui souhaite le report de cette taxe à cause de la mauvaise application. La Fédération des entreprises du Congo a demandé au gouvernement congolais de retarder l'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. La FEC l'a dit lundi dernier à Kinshasa au cours d'une rencontre d'échange qu'elle a eue avec le gouvernement de la RDC. Les patronats congolais proposent notamment que la TVA soit reportée et qu'on revienne à l'impôt sur le chiffre d'affaires ICA en sigle. Albert Yuma, président de la FEC, dans ses propos recueillis par Nadine Foulan-Simba.
Nous demandons de procéder à la signature par son Excellence Monsieur le Premier ministre d'un décret pour reporter la date d'entrée en vigueur de la loi instituant la TVA au 1er janvier 2013. Arrêter au 29 février 2012 la perception de la TVA et revenir au régime de l'ICA à partir de mars jusqu'à décembre 2012. Organiser des missions mixtes de sensibilisation à caractère pédagogique en direction des opérateurs économiques assujettis. Former et vulgariser suffisamment les assujettis et le personnel de l'administration fiscale et de la fonction publique. Mettre en place un cadre de concertation inclusif pour examiner les préoccupations soulevées. Et enfin, modifier la loi instituant la TVA afin d'intégrer tous les amendements.
En réaction, le Premier ministre souligne qu'il n'est pas question de revenir sur l'ICA. Adolphe Mouzito.
Nous maintenons le principe de la TVA tout en intégrant les observations que nous allons tous corriger ensemble. Et la première correction éventuelle consiste à intégrer déjà les amendements qui sont pris en charge dans les cadres réglementaires par les ministres. Sans attendre la fin de l'année, nous pourrons déjà évoluer dans la révision en examinant le cas avant même la fin de l'année. Et je pense qu'avril, mai, on sera déjà... On aura un nouveau Parlement qui pourrait recevoir du gouvernement des projets, des lois portant révision de la TVA ou de certaines dispositions en annexe au projet de loi budgétaire.
Harold Bellarmé Badibanga, comment vous analysez cette situation?
J'analyse tout simplement cette situation d'une façon pour moi de comprendre que les opérateurs économiques congolais n'ont pas seulement cette volonté de mettre en application telle que prévue par la loi la TVA, parce que vous êtes rendu certainement compte que dans les propos du patron de la FEC, il y a seulement la volonté, la demande du report, mais les causes principales, les causes pour lesquelles on demande le report, soit elles sont inexistantes, soit lorsqu'elles sont
là. La FEC parle de la mauvaise application de la TVA.
Mais cette mauvaise application, elle est venue d'où? Elle est venue du manque de volonté de la bonne applicabilité dans le chef des opérateurs économiques. Voilà pourquoi, au lieu de demander le report de l'applicabilité de la TVA, ils auraient demandé l'appui du gouvernement pour une bonne application. Alors, si les problèmes existent, c'est parce que beaucoup d'opérateurs économiques, au lieu d'appliquer seulement la TVA, ils superposent celle-ci sur l'ICA. Et pourtant, l'application simple de la TVA aurait tout simplement déclenché une baisse de prix des biens et des services sur toute l'étendue de la République. Moi, je pense que la décision prise par le gouvernement, elle est bonne, mais elle ne doit pas se limiter à une simple décision. On doit déclencher les mécanismes, non seulement pour aider les opérateurs économiques à appliquer cette TVA, mais aussi prévoir des mesures disciplinaires contre ceux qui ne l'appliqueraient pas ou contre ceux qui l'appliqueraient mal. Parce que dans ce jeu de ping-pong entre le gouvernement et la FEC, ou avec les opérateurs économiques pris de manière globale, c'est la population qui en pâtit. Alors, si ce jeu de ping-pong continue, qu'on ne se livre pas à la distraction, c'est lui qui va tirer les conséquences fâcheuses de ce malaise qui se vit et dont la population est première victime. C'est Joseph Kabila parce que c'est à lui que la population a donné le mandat de 5 ans. Lorsque ses ministres, lorsque les uns et les autres n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent pour le bien-être de la population, eux peut-être ne seront pas sanctionnés.
Et donc, à certains points de vue, la proposition de la FEC rencontre l'assentiment de la population qui se plaint d'être soumise à toutes ces flambées de prix.
Non, attention, il ne faut pas qu'on habille Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Paul. Les réclamations de la FEC ne sont pas fondées parce que la flambée des prix est l'émanation de la FEC elle-même. C'est la réclamation plutôt de la population qui décrit le fait qu'il y a flambée de prix sur le marché qui est fondée. La FEC ne peut pas se défendre en alléguant sa propre turpitude. Ce sont les opérateurs économiques qui appliquent mal la TVA. Ce sont les opérateurs économiques qui superposent la TVA sur l'ICA au lieu de faire table rase sur l'ICA. Et les conséquences, c'est cette flambée de prix dont la population est victime. Il suffit d'une bonne volonté, d'une minime simple volonté dans le chef de la ou des opérateurs économiques de manière générale pour qu'il n'y ait pas flambé de prix. Voilà pourquoi le gouvernement doit utiliser même la coercition pour que la loi soit respectée.
Bélard Mbouyi, l'application de la TVA a suscité beaucoup de problèmes, notamment la flambée des prix, nous venons d'en parler. Il fallait que quelqu'un puisse réagir et la FEC a fait cette proposition. Comment vous analysez cette recommandation faite par la FEC à l'endroit du gouvernement?
Je l'apprécie avec beaucoup de vigueur, je dois le dire. C'est une réaction d'ailleurs qui vient de la personne habilitée, de l'institution habilitée pour faire cette recommandation, c'est-à-dire la FEC, les premiers concernés eux-mêmes. Il faut dire en principe que la TVA, c'est un impôt juste, beaucoup plus juste que ne l'était l'ICA, et plus facile à recouvrer et à reverser à l'État. Mais pour autant, passer de l'ICA à la TVA implique une grande action de communication et de pédagogie qui n'a pas été faite par le gouvernement. Tout ce que vous êtes en train de nous faire aujourd'hui comme sport, théâtre, à la télévision, c'est vraiment de la rigolade. Parce que quand vous prenez des comédiens pour parler à la télévision, vous vous adressez au petit peuple de la cité qui, en principe, ne sont même pas concernés par cette affaire-là. En fait, il y a beaucoup de complexités sur lesquelles le gouvernement ne nous a pas encore très bien éclairés. Par exemple, Guy, on nous fait croire que si une entreprise vend des marchandises, par exemple, pour 115 000 dollars américains, on prend 115 000 dollars multiplié fois 16%, on prend la TVA, on donne à l'État. C'est ce qu'on est en train de nous faire croire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est la TVA collectée. On doit faire, lorsqu'on a eu le cours de fiscalité, on connaît ce genre de principe. Il y a la TVA collectée et la TVA déductible. C'est-à-dire que lorsque lui aussi avait acheté cette marchandise, il avait aussi payé la TVA. Ça, c'est la TVA déductible. Donc, il faut soustraire les deux. La collectée moins la déductible pour trouver la TVA qu'il faut reverser à l'État. Actuellement, on ne le dit pas. Donc, si on commence à demander aux gens en janvier de commencer à payer la TVA immédiatement en appliquant le 16% sur leur chiffre d'affaires immédiatement, mais eux aussi avaient payé la TVA quand ils ont acheté ces marchandises-là, dans certains cas. Voyez-vous, cela rend un peu les choses un peu compliquées pour certains cas. Ça, c'est dans. La deuxième chose, même pour les pays qui appliquent la TVA, le taux n'est pas aussi uniforme qu'on veut nous le faire croire. Nous dire, non, voilà, nous étions à l'ICA qui était à 18%, maintenant nous sommes à 16% avec la TVA, donc les prix doivent baisser. Ce n'est pas forcément comme ça. Si nous prenons même les pays les plus développés, comme la France par exemple, le taux normal de la TVA est de 19,6. C'est vrai.
Qui va passer à 21?
Qui va pas, non,
pour qui pourrait passer à 21
pour la TVA sociale.
Voilà.
Exact. Eh bien, mais il y a le taux réduit. de 5,5% qui concerne les produits de première nécessité, les produits de consommation courante, les produits alimentaires, les livres, les produits agricoles, la pêche, transport de voyageurs, appareils pour handicapés, par exemple. Ils ne payent que 5,5%. Mais la loi dispense également certaines opérations entrant dans le champ de la TVA, comme les exportations, les professions médicales, les assurances, l'enseignement. En plus de ça aussi, il y a un taux qu'on appelle le taux super réduit, qui n'est que de 2,1%, et ce taux-là concerne les médicaments qui sont remboursés par la Sécurité sociale, concerne les produits sanguins, les publications et périodiques de la presse, par exemple. Donc, il y a toute cette panoplie de
théories
qu'il faut bien expliciter aux populations et avoir à entreprendre une grande action de pédagogie, aussi bien surtout auprès des opérateurs économiques et des agents de l'État chargés de recouvrer le fisc. Et sur ce plan, la FET n'a pas tort de demander cette prolongation pendant une année, où on connaît le temps de préparer les choses.
Mathieu Pokoudi, vous êtes un matin de Bakongo. Comment la TVA est appliquée dans cette ville? Est-ce qu'il y a des abus comme ici à Kinshasa?
Oui, merci beaucoup. Je dirais que toute chose étant égale par ailleurs, c'est la même confusion dans la province du Bakongo, où les opérateurs économiques superposent l'ICIA sur la TVA. Donc, il se pose réellement un problème pédagogique par rapport à la compréhension même de la TVA. Mais je voudrais un peu dire que ici, le président de la FEC a dit pas raison, d'autant plus que la confusion s'est fait remarquer beaucoup plus du côté des opérateurs économiques, qui pensent que il faut, au-delà de l'ICIA, imposer aussi la TVA et qu'il faut payer des richesses. Donc voilà un peu, à ce niveau-là, il y a un problème. Un problème du côté des opérateurs économiques et du côté de l'État. De l'État, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à vulgariser au mieux les textes relatifs à l'application de la TVA. Or, c'est un texte qui a été promulgué en 2010. Et que nous avons vu 2011 une année charnière pour pouvoir vulgariser le texte et espérer à ne pas être surpris en 2012. Mais bon, nous sommes surpris que le texte est en application, donc on devrait suffisamment vulgariser de manière à ne pas surprendre et la population et les opérateurs économiques. Mais en fait, je dirais par rapport à la TVA que c'est un impôt qui est neutre, qui a aussi un rendement par rapport à l'État. Donc, à ce niveau-là, l'État a intérêt à ce que l'impôt ou la TVA soit appliqué, mais aussi la FEC doit également assurer la formation de ses membres pour que le tout ne retombe pas sur la pauvre population.
Merci.
Ici à Matadi, tout le monde parle de la TVA, même quand il faut monter sur un vélo, on vous dit TVA, même s'il faut acheter une mangue, on vous dit TVA. Donc la confusion est totale et qu'il appartient à tous les partenaires de s'impliquer dans le sens de mobiliser pour que la compréhension soit unique dans le sens de la compréhension de la TVA. C'est vrai que dans la province, il y a des efforts qui sont
fournis
par l'administration fiscale, mais en fait, ce n'est pas suffisant.
Merci Abélard Mbouy, directeur général de la Renaissance de la Nation et hebdomadaire qui parle ici à Kinshasa. À Harold Bellarmé Badibanga, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir STG en sigle qui émet depuis Kinshasa. Et à Mathieu Pokoudi, l'éditeur du journal Embouchure et hebdomadaire qui paraît à Matadi au Bakongo. C'est la fin de cette émission. Mimi Kindou était à la technique et Kéline Koupé à la réalisation assistée de Samuel Kachak et de José Junior Owawa sous la supervision de Martin Sebou Djangwe. Devant ses micros, Guy Maté, merci et bonne suite de programme sur Radio Capri.